Bienvenue sur Radio Trottoir sur Ocayotte
103.4. Un lundi pour moi à 15h.
Rediffusé le dimanche suivant à 13h.
Une émission réalisée par les étudiantes et étudiants du français
de l'Université de Iéna.
Une émission informative,
culturelle,
musicale, francophile
et bien sûr en français.
Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à votre rendez-vous francophile du lundi après-midi Radio Trottoir, le programme en langue française de la radio Ocayotte. Pour notre première émission aujourd'hui, nous vous invitons à la découverte d'une région riche en histoire, en culture et bien sûr riche en charme, l'Alsace. Au programme, nous reviendrons sur une excursion à la capitale européenne, Strasbourg, qui a eu lieu fin mars, ainsi que les expériences du séjour plus long à Strasbourg et à Colmar, et bien plus encore. Mais assez parlé, commençons notre programme avec une promenade à Strasbourg, accompagnée par Cora et Rebecca. C'est parti!
Bonjour Cora!
Bonjour Rebecca, j'ai hâte de passer ce jour avec toi.
Ah oui, moi aussi, ça serait très génial! Je crois que nous sommes presque là.
Prochain arrêt, Strasbourg.
Bienvenue encore une fois à notre émission des Radio Trottoirs. Aujourd'hui, nous vous emmenons à une promenade à Strasbourg.
On a prévu un jour plein d'activités. Nous voulons visiter quelques attractions touristiques et découvrir la cuisine, la culture et la langue de la ville et de la région.
On va aussi parler aux gens intéressants et vous montrer des perspectives différentes de cette ville vibrante, multiculturelle et plurilinguistique.
Alors, allons-y.
Strasbourg n'est qu'à deux pas de l'Allemagne. C'est une destination facile d'accès. Depuis que le trajet en tramway ne dure que 25 minutes. Cela nous amène à notre devinette du jour. En quelle année la première ligne de tramway reliant Kiel à Strasbourg a-t-elle été mise en service? Écoutez attentivement pour connaître la réponse dans notre émission ou restez à l'écoute jusqu'à la fin pour connaître la solution. J'ai hâte d'entendre ce que vous pensez.
Je suis ravie que nous soyons ici maintenant. Mais où commencer?
Je ne sais pas non plus. Dans une si grande ville, il y a beaucoup de choses à découvrir. Mais je ne m'y connais pas bien ici.
Mais il y a quelqu'un qui connaît Strasbourg comme sa poche. C'est Eva qui a déjà vécu un an à Strasbourg.
Après le bac, j'avais envie de partir à l'étranger, de sortir de ma zone de confort et surtout de consolider mon français avant de commencer mes études. C'est pour cela que j'ai décidé de faire un service civique. En même temps, je voulais m'engager dans un projet utile dans le domaine social. Au départ, je pensais plutôt à travailler dans une école, mais il n'y avait plus de place disponible. Je me suis donc retrouvée un peu par hasard à Strasbourg dans une maison de retraite. Et avec le recul, je peux dire que c'était probablement une des meilleures décisions que j'ai prises. Si je devais décrire Strasbourg en trois mots, je dirais pittoresque, conviviale et européenne. C'est une ville où chaque coin de rue a son propre charme. Il est donc difficile de choisir un seul endroit préféré, mais celui où j'ai passé le plus de temps, c'était sans doute le quai des Bateliers. Le soir, je m'y retrouvais souvent avec des amis, un verre de vin à la main, parfois accompagné d'un burger camembert confiture de figues de chez Bio Burger juste à côté. L'après-midi, c'était plutôt un café au soleil, à regarder les bateaux passer. Le côté franco-allemand se ressent à plusieurs moments du quotidien. Le plus évident, c'est quand on prend le tram et qu'on traverse le Rhin pour aller à Kiel, en Allemagne. Le saviez-vous, la liaison directe de tramway entre Strasbourg et Kiel circule déjà depuis 2017. À ce moment-là, la voix des annonces change soudainement et passe à l'allemand. Avec ce ton joyeux...
Nächster Halt, Kiel, Bahnhof. Also auf, ihr Lied, jetzt sind wir gleich an Kieler Bahnhof.
Mais cette dimension interculturelle, je l'ai aussi vécue au travail. Dans la maison de retraite, beaucoup de résidents parlaient alsacien. C'était parfois même leur seule langue. Je me souviens que, en rentrant du travail le soir, je croisais toujours cinq dames âgées assises dans le couloir, parlant de tout et de rien, évidemment en alsacien. Et étonnamment, j'arrivais à comprendre certains mots ou expressions. La culture alsacienne était très présente aussi à travers les traditions. À Noël, nous avons préparé des bredeleux avec les résidents. À Pâques, le traditionnel lemmeleux et pour la Chandeleur, des centaines de crêpes. Mais mon moment préféré restait les tartes flambées, que nous préparions à partir du mois de mai dans le jardin pour tous les résidents. Il y en avait pour tous les goûts, salés, sucrés et toujours partagés. Et au fond, c'est peut-être ça que Strasbourg m'a appris. Que ce sont souvent les moments simples, un repas partagé, un lieu au bord de l'eau ou une conversation inattendue qui mène à une amitié avec ma chère Madame W, avec qui j'ai passé des heures à discuter en allemand. Elle était strasbourgeoise et professeure d'allemand et j'espère sincèrement avoir pu rendre ces derniers mois de ses 102 ans de vie un peu plus spéciaux. C'est ça qui rend une expérience vraiment inoubliable.
Maman, je... Merci à Eva de nous avoir raconté ses expériences.
Ça me donne vraiment envie de tout découvrir. Alors, allons-y.
Notre première destination, c'est la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Ce n'est pas loin, et avec ce beau temps, nous pouvons faire une promenade.
C'est une bonne idée. Nous pouvons marcher le long du fleuve Ill et explorer le quartier Petite France.
Ah, j'adore toutes les petites maisons à colombage coloré.
Oui, elles sont chouettes, les boutiques, les souvenirs et les restaurants.
Oui, c'est vrai. Mais regarde, on peut déjà voir le clocher de la cathédrale. Regarde, quel bâtiment impressionnant.
Tout à fait. J'ai lu quelque part que la flèche a une hauteur de 142 mètres.
Waouh, mais pourquoi a-t-elle une seule flèche?
Si je me souviens bien, une deuxième flèche n'a jamais été construite pour des raisons d'écoute.
Ah, d'accord. Mais elle est belle quand même.
Oui. Il y a aussi beaucoup de monde ici. Retournons au fleuve.
Ah, Yasmine, regarde. Là-bas, près de l'eau, ce sont Rebecca et Cora. Elles sont déjà arrivées à la Petite France.
Oui, je les vois. On va juste les saluer rapidement.
Salut vous deux. Bon, on continue notre promenade de ce côté. On se retrouve tout à l'heure.
Voilà, et maintenant, on peut vraiment commencer notre visite. Regarde ce soleil sur l'eau, c'est magnifique ici.
Oui, Yasmine, c'est incroyable. On vient de traverser la grande rue et tout à coup, le silence. On se croirait dans un village, loin de l'agitation. On entre officiellement dans la Petite France.
C'est le quartier le plus célèbre de Strasbourg. On l'appelle souvent la Petite Venise, parce que le fleuve Lille se sépare ici en cinq bras. C'est comme une main avec cinq doigts qui entoure le quartier.
C'est très poétique. Mais tu sais, Yasmine, l'histoire du nom Petite France n'est pas très romantique au départ. Au XVe siècle, il y avait ici un hôpital pour les soldats qui avaient la syphilis, qu'on appelait à l'époque le mal français. Les gens ont commencé à l'appeler l'endroit Zum Franzose.
C'est vrai, c'est surprenant. Heureusement, aujourd'hui, ça ne sont plus les médicaments, mais plutôt les fleurs. Regarde toutes ces géraniums aux fenêtres des maisons à colombages. C'est vraiment une véritable carte postale.
On continue notre marche vers la rue du Banc aux Plantes. C'est juste là. Regarde l'architecture. Toutes les maisons sont blanches et très bien conservées.
Oh oui, et regarde les toits. Ils sont très hauts, très pointus et il y a des ouvertures sous les tuiles. Tu sais pourquoi?
Oui, c'était le quartier des tanneurs, des meuniers et des pêcheurs. Les tanneurs utilisaient ces greniers ouverts pour faire sécher les peaux d'animaux à l'air libre. Autrefois, l'odeur était terrible à cause du cuir, mais aujourd'hui, c'est une oasis de paix.
On arrive maintenant sur la place Benjamin VI. C'est le cœur du quartier. Il y a des platanes magnifiques et on entend souvent un accordéoniste jouer ici. Juste au bord de l'eau, il y a la célèbre maison des tanneurs, construite en 1572.
Elle est magnifique avec ses géraniums rouges et ses rideaux assortis. C'est devenu un restaurant très connu pour la choucroute alsacienne. Ça me donne déjà faim, mais on a encore beaucoup de choses à voir.
Allez, on traverse. Regarde le pont du Faisan juste devant nous. Oh, attention, on ne peut pas passer tout de suite.
Ah, c'est parce que c'est un pont tournant. Il est en train de pivoter sur le côté pour laisser passer un bateau de touristes sur les canals. C'est toujours amusant à regarder. Les gens attendent patiemment sur les quais.
C'est une attraction unique. Dès que le bateau est passé, le pont revient et on peut continuer vers le pont couvert.
Tu as remarqué, Yasmine? ils ne sont plus couverts. Ils avaient des toits en bois au Moyen Âge, mais ils ont disparu au XVIIIe siècle. Par contre, les quatre grandes tours de défense sont toujours là.
Elles sont massives, elles servaient des prisons autrefois et faisaient partie des anciens remparts qui protégeaient l'indépendance de la ville. C'est impressionnant de voir comment l'île se divise ici en plusieurs canaux.
Pour terminer notre tour, il faut absolument monter sur le barrage Vauban. C'est juste en face.
Allez, on monte sur la terrasse panoramique. Regarde cette vue, on voit toute la petite France, les canaux et même la flèche de la cathédrale au loin.
C'est grandiose. Ce barrage a été construit vers 1690 sur les plans de l'ingénieur Vauban. Son rôle était stratégique. En fermant les arches, on pouvait inonder tout le sud de la ville pour empêcher les ennemis d'approcher.
C'est une histoire incroyable pour un endroit aussi calme aujourd'hui. Regarde les cygnes et les canards qui nagent tranquillement en bas. On se sent vraiment bien ici.
C'est vrai. On voit aussi le musée d'art moderne de l'autre côté. C'est un bon contraste entre l'ancien et le nouveau.
Je crois qu'on a bien mérité une petite pause. Tu veux aller voir les boutiques des souvenirs dans la rue des Coqs? J'ai vu des cigognes en pelouse et des moules à kouglof très mignons.
Bonne idée. Et après, on pourrait s'installer sur une terrasse, comme chez l'ami Schutz, pour manger une tarte flambée et regarder les bateaux passer.
Parfait. Profitons encore un peu de cette ambiance de village au cœur de Strasbourg. Mais avant de terminer, on a envie de partager la chanson « Roi » de notre groupe préféré.
Quelle histoire riche!
C'était vraiment intéressant. Merci à Yasmine et Maya de nous avoir montré la petite France.
Maintenant, j'ai très faim. Allons chercher quelque chose pour le déjeuner.
Mais oui, c'est une bonne idée. J'ai entendu parler des tartes flambées. Ici, on dit aussi flammekuchen.
Mais je suis sûre que la cuisine strasbourgeoise a bien plus à offrir que les tartes flambées. N'est-ce pas?
Salut à tous et toutes! Après que nous avons écouté des informations sur la cathédrale et la petite France, je veux maintenant continuer avec la gastronomie à Strasbourg. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage gourmand au cœur de Strasbourg, où la gastronomie occupe une place centrale dans la culture et le quotidien. Imaginez un instant, vous vous promenez dans les ruelles pavées, vous avez un peu faim, parfait. Ici, vous pouvez goûter des plats traditionnels alsaciens et tout ce que votre cœur désire. Une recommandation déjà mentionnée, la tarte flambée ou flammekuchen, c'est vraiment délicieux. C'est une fine pâte recouverte de crème, d'oignons et pas chère. Et si vous entrez dans une vente stup, attention, vous risquez de ne plus vouloir repartir. On y trouve une ambiance détendue et surtout des plats généreux. Mais Strasbourg, ce n'est pas que la tradition. La ville nous offre une scène gastronomique dynamique et innovante. De nombreux chefs talentueux revisitent les classiques avec créativité, en particulier les des produits locaux et de saison comme la choucroute ou le pain d'épices. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous préférez des repas traditionnels ou êtes-vous tenté par des expériences culinaires plus audacieuses? Mais on ne doit pas oublier les marchés. En vous y promenant, vous découvrez une grande variété de produits, fromage, vin d'Alsace. Alors, Strasbourg apparaît comme un endroit incontournable pour les amateurs et de bonne cuisine. Entre respect des traditions et ouverture à l'innovation, la ville donne une expérience riche et variée. Chers auditeurs, si vous passez un jour à Strasbourg, laissez-vous guider par vos sens et surtout, bon appétit.
Merci à Richard pour ses propositions. Je dois absolument essayer le pain d'épices. Je n'ai jamais mangé ça et j'ai hâte de le goûter.
Ça a l'air bon. Cherchons un restaurant qui sert ces spécialités. Juste après quelques heures ici, je dirais que l'Alsace me plaît beaucoup. À part de Strasbourg, peut-être qu'il y a des autres belles villes dans la région.
Bien sûr. Je connais quelqu'un qui peut nous présenter un joli endroit.
Bonjour tout le monde, de ma part, je m'appelle Léonore. Partir à l'étranger, c'est ce dont beaucoup de gens rêvent, surtout les jeunes. Quelques-unes de notre équipe Radio Trottoir ont déjà eu la chance d'y partir, par exemple en France. Et vous avez déjà pu entendre l'expérience d'Eva à Strasbourg aujourd'hui. Et maintenant, on va découvrir comment c'est de vivre dans une plus petite ville en Alsace. Aujourd'hui, ou maintenant, je vais parler à Floria qui a passé une année en France. Bonjour Floria.
Bonjour Léonore.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Je vais super bien, mais je suis un peu malade, donc je verrai si ma voix est assez forte.
Ok, on verra ça bien. Moi aussi d'ailleurs, c'est un peu... C'est tout le monde en ce moment. Bref, où est-ce que tu es partie en France?
J'étais à Colmar, donc en Alsace, c'est dans l'est de la France.
D'accord. Et est-ce que c'était ton choix personnel de partir à Colmar?
Oui, plus ou moins. Au début, je voulais aller dans le sud de la France et j'ai trouvé cette organisation, Freunde Waldorf, qui propose des opportunités de bénévolat dans beaucoup des pays. Mais il n'y avait que deux places dans le sud et une à Colmar qui m'ont plu. Et finalement, j'ai été acceptée à Colmar.
D'accord. Et quels étaient les critères pour toi qui étaient importants pour ton bénévolat?
Je voulais vivre dans une colocation et pas dans une famille d'accueil parce que j'ai entendu des mauvaises choses. Et je voulais travailler dans une école dans n'importe quelle classe.
D'accord, dans une école. Et donc c'était le cas à Colmar?
Oui.
Raconte-moi un peu de ta vie à Colmar, ce que tu veux.
Donc il y avait 3 volontaires à l'école Matthias Grünewald. Et au début de l'année, on pouvait choisir entre les classes 1, 2 et 3. Et moi, j'ai choisi la première classe, donc les CP. Mmh. Et j'ai assisté à la maîtresse et j'ai passé la journée avec la classe.
Et c'était quelle durée? Ah non, la durée d'une journée, c'était quoi? À l'école. Genre, ça a commencé quand?
Il fallait arriver à 7h45 pour la surveillance. Mais moi, j'étais toujours un peu en retard parce que j'ai toujours pris le train qui arrivait vers 7h55.
Aïe, aïe, aïe. Mais pourquoi?
Bah, franchement, parce que j'étais trop paresseuse d'y aller à pied ou à vélo. Ouais.
Ça, je comprends.
Oui.
Au moins, il y a les trains dans la petite ville.
Mm-hmm. Oui, et les cours commençaient toujours à 8h10 et finissaient vers midi avant le repas pour la première classe. Et les autres classes finissaient plus tard à l'après-midi ou parfois... du soir.
Ouais. Ouais, les plus grandes. Et quelles étaient tes tâches dans les classes, dans la classe, à l'école?
En première classe, j'ai beaucoup surveillé les enfants pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Et une fois par semaine, il y avait le cours de peinture que j'ai dû préparer avec 2 enfants. Et j'ai adoré cette activité, c'était super chouette. Et pendant ces cours, j'ai aidé les enfants à peindre. Une fois par semaine, on faisait une balade que je ne trouvais pas super amusante parce que c'était fatigant parfois. et plusieurs fois par semaine, j'ai aidé dans la 6e et 8e, donc 4e. Est-ce que tu veux expliquer ça peut-être?
Oui, c'est un peu compliqué. Donc en Allemagne et en France, on appelle les classes différemment. En Allemagne, c'est la première classe jusqu'à la 12e, je ne sais pas d'où vous venez les auditeurs. Du coup, en France, on compte à l'envers. Et en fait, le collège, par exemple, ça commence en 6e, je crois, et puis 5e, 4e, tout ça. Mais dans ton école, parce que c'était une école Waldorf, eux, ils comptent comme en Allemagne.
Oui. Ouais. Oui, et dans ces classes, j'ai aidé dans les cours d'anglais et allemand, pour la prononciation, par exemple. Et en plus, j'ai participé à la chorale et des grandes classes et aux cours de dessin avec les 11e ou
la seconde. Je crois que c'est ça, oui. Mm-hmm. Ou même la peut-être c'est même la première.
Okay. Oui, c'est la première.
Ah, c'est la première.
Mm-hmm. D'accord.
C'est compliqué pour nous aussi. Et comment était ta vie à Colmar à côté du travail? Quels sont tes souvenirs préférés?
J'ai beaucoup apprécié les autres volontaires. On était 8, partagés entre l'école, la crèche et le jardin d'enfants. On a utilisé aussi Bumble, l'application, pour trouver des autres volontaires. Parce que si on ne connaît pas des gens à Colmar, ça devient ennuyant très vite. Il n'y a pas grand-chose à y faire, malheureusement. Mais il ne faut pas oublier le centre-ville, c'est très joli. Oui, d'ailleurs, une fois par mois, on faisait un brunch tous ensemble, c'était mon idée. et à partir du printemps, on passait beaucoup de temps au parc. Et avec 2 amis proches, j'ai fait un cours de dessin, c'était enrichissant. Et un des mes highlights, c'était la fête de la musique.
Ah oui, je connais, c'est bientôt aussi.
Mm-hmm.
Ça a l'air super, dis donc. À côté, je voulais déjà demander, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué à Colmar?
Oui, les trams m'ont manqué.
Les trams?
Oui, et chaque fois quand j'étais à Strasbourg, j'ai pris le tram, juste par principe. Oui, mais honnêtement, ce qui m'a vraiment manqué, c'est la vie, les gens de mon âge. Il n'y avait que des personnes âgées ou des enfants, c'était mon impression. Donc il y avait peu d'offres et d'activités pour les personnes de mon âge.
Oui, oui. Je comprends. Et sinon, est-ce que tu as aussi vécu des temps plus difficiles quand les choses t'ont beaucoup manqué? Est-ce qu'il y avait peut-être des obstacles inattendus? Peut-être c'est intéressant pour ceux et celles qui veulent encore faire un bénévolat pour entendre un peu en image réaliste.
Oui, bien sûr. Au début, j'avais des gros problèmes avec la langue, ce qui rendait le contact avec les gens difficile. En plus, la relation avec notre colocataire n'était pas la meilleure. En fait, je pense qu'elle a eu des problèmes personnels, peut-être, qu'elle déchargeait sur nous.
Ok. Oui. Et est-ce que ça a changé au cours du temps? La langue, je suis sûre, parce que je crois que tu as beaucoup amélioré le français.
Oui, c'est vrai. Mais avec ma colocataire, au contraire, non. C'est devenu pire, en fait, malheureusement.
Oh, je suis désolée. Et si tu étais déjà dans la... encore dans la même situation, pardon. Est-ce que tu partirais encore à Colmar?
Oui, bien sûr, parce que j'ai beaucoup appris et je me suis fait des nouveaux amis. Et je peux vraiment vous recommander de passer une année à l'étranger.
D'accord. Alors, si vous avez bien écouté, vous pouvez aussi passer votre année de bénévolat en France, à Colmar. Et merci beaucoup, Floria, pour partager toute ton expérience avec nous.
Oui, bien sûr.
Merci à Léonore et Floria pour cette partie intéressante sur ces expériences à Colmar. Maintenant, retournons à Strasbourg. Nous avons le plaisir de découvrir l'environnement linguistique de Strasbourg ensemble. Il est important de dire qu'à Strasbourg, le rôle de l'Alsacien est moins important qu'aux endroits plus ruraux de la région. Même si notre séjour court n'a pas indiqué que l'Alsacien occupe beaucoup de place dans la vie quotidienne à Strasbourg, Sabine, la prof d'Alsacien, souligne que ce dialecte est utilisé fréquemment en campagne. Dans un instant, vous allez entendre une partie de notre conversation avec elle. Utilisez-vous l'Alsacien dans des contextes culturels comme des fêtes, dans les réseaux sociaux?
Oui. Alors, à Strasbourg, il se parle beaucoup moins qu'à la campagne. À la campagne, les fêtes, c'est. Il y a de l'Alsacien, on entend de l'Alsacien partout. De moins en moins, mais on entend l'Alsacien. Enfin, ma génération et la génération qui suit, ça va. Après, les plus jeunes, c'est plus vieux. Ouais. Et les réseaux sociaux, là, ils sont en train de collecter tout ce qui s'écrit. Parce que moi, quand j'échange des WhatsApp avec le groupe, c'est en alsacien.
Ah oui.
Ouais. Et alors, s'il y en a qui ne comprennent pas, je demande à un, je dis, qu'est-ce que tu peux écrire, ce que tu peux traduire pour que ça soit interactif, en fait. Et puis, ils sont en train de collectionner, c'est la faculté de langue, je crois, qui collectionne les audios alsaciens. Et on est tous mis à contribution. On enregistre des textes et d'autres doivent écrire les textes enregistrés pour faire vivre encore et pour garder la mémoire audio. Voilà, pour pas que ça se perde.
Pour découvrir un environnement linguistique de Strasbourg, vous allez entendre des extraits de mini-trottoirs qui ont été enregistrés par les étudiantes de l'ENA pendant leur séjour à Strasbourg. Voici les réponses des participantes selon leur choix de mots.
Qu'est-ce que cette langue représente pour vous? Est-ce que c'est quelque chose d'identité, d'héritage?
Ouais, moi, c'est pour vraiment le patrimoine de l'Alsace. Mes parents, mes grands-parents parlent alsacien quand ils sont ensemble, quand il y a des réunions de famille, tout le monde parle alsacien. Mon frère parle alsacien aussi. Et donc, ouais, pour moi, c'est vraiment ça, notre identité, nos racines.
Ouais, ça nous représente bien, surtout quand on a l'accent un peu quand on parle français. On reconnaît d'où viennent les gens. Donc, ouais.
Ah, ok.
Un mot ou expression alsacienne, est-ce que vous utilisez au quotidien?
Aucune.
Aucune? Est-ce que vous connaissez une expression que vous n'utilisez pas, mais quelqu'un d'autre?
Oui.
Oui, et?
C'est une voisine.
Une voisine?
Une de mes voisines.
Mm-hmm. Et quelle expression est-ce qu'elle utilise?
Esreit. Esreit.
Esreit?
Oui, esregnet.
Ah!
Voilà. Il pleut, oui, c'est ça.
Vous dites plutôt flammkuchen ou tarte flambée?
Ni l'un ni l'autre. Moi, je dis flammkuchen.
Ah, flammkuchen.
Flammkuchen.
C'est comme ça qu'on prononce ça avec le... Ah non.
Alors, le flammkuchen, alors, flammkuchen, c'est le mot pour les touristes.
Ok.
Voilà. voilà, flammkuchen, c'est pour les touristes. Le mot en alsacien, c'est flammkuchen. Littéralement, voilà. Ah. Voilà.
C'est avec E, U, C, H,
E. Ouais, c'est ça. Flammkuchen, oui. Voilà.
Est-ce que vous dites, flammkuchen ou tarte flambée?
Tarte flambée.
Et pourquoi?
Parce que l'autre, il faut pas le dire.
Pas le mot. On leur donne une deuxième nationalité.
Le texte montre l'influence plutôt lexicale de l'alsacien sur le choix de mots, sur les personnes qui ont grandi dans la région ou qui habitent en Alsace depuis des années. Les choix contre les mots du français standard peut être observé même pour les personnes qui ne parlent pas d'alsacien. Tout de suite, nous allons au bistrot Le Knäckes à Strasbourg pour un cours d'alsacien avec Sabine, dont nous allons écouter des petits extraits.
Bonjour, zusammen. Wir trinken nicht gern Schnaps. Ich habe auch Hunger. Ich esse Zipfelsuppe.
Du esch Würschle mit Senf und du trinkst gern Wieswein.
Banane, Biere, Mirabelle, Äpfel, Pflüme, Wasserwelle.
Eure Bananen sind so übersichtig, fast schwarz.
No, ich lasse euch zum halben Preis.
Wir nehmen auch drei von Äpfeln ab, aber kein Süri.
Was für Rigi? Renette oder Golden?
Welche Rote ihr mir für Apfelküche?
Für eine gute Küche habe ich da eine schöne Mirabelle.
Ich hätte lieber ein paar softige Madame Schenkel.
Ok, merci.
Peut-être vous avez reconnu le fort lien entre l'alsacien et l'allemand. En fait, l'alsacien, étant en dialecte alémanique, est plus proche de l'allemand que de la langue française.
Merci de nous avoir accompagnés pendant cette partie linguistique.
Nous vous proposons maintenant la chanson « Déjà volée » de M. Pokora qui est née à Strasbourg.
Merci à Michel, Cornelia et Sarah pour cet aperçu dans le dialecte de l'alsacien. Mais c'est vraiment dommage qu'il soit en train de disparaître.
C'est vrai, mais peut-être qu'il y a encore des gens qui vont transmettre des dialectes à leurs enfants pour garder cette partie importante de la culture.
Maintenant, nous allons découvrir quelque chose d'extravagant sur Strasbourg. La maladie d'Anson de Strasbourg est une épisode étrange de l'année 1518. Tout a commencé avec une femme qui s'est mise à danser dans la rue et qui n'a plus réussi à s'arrêter. Peu à peu, d'autres habitants ont commencé à faire la même chose, comme s'ils étaient tout pris par cette danse incontrôlable. Très vite, il y avait des gens qui dansaient partout dans les rues de la ville, sans vraiment pouvoir s'arrêter, parfois jusqu'à l'épuisement. Les autorités ne savaient pas trop quoi faire. Au début, elles ont même cru que de la musique pouvait aider et ont fait venir des musiciens pour accompagner les danseurs. Mais la situation a empiré. Finalement, elles ont décidé d'interdire complètement la danse dans les rues de Strasbourg. Officiellement, plus de public, point final. Les causes restent floues aujourd'hui encore.
intoxication alimentaire, stress intense ou phénomène psychologique collectif. Quoi qu'il en soit, cet épisode reste l'un des mystères les plus étranges de l'histoire de la vie. Et avec ça, j'espère que ce phénomène aussi étrange vous a surpris autant que moi. Et maintenant, passons au mot du jour. Le mot du jour est babéba. Ce terme affectué est utilisé en Alsace pour désigner les grands-pères, un peu comme papy ou pépé. Sa particularité vient de sa prononciation et de son écriture assez variable, car il tente de représenter un son typique de l'alsacien qui n'existe pas vraiment en français. En effet, le système phonologique alsacien ne fait pas clairement la différence entre les sons P et B. Les résultats se situent quelque part entre babéba et papépa, voire bababa ou papapa, selon les variations et les habitudes de chacun. C'est justement ce flou sonore qui rend le mot si particulier. Finalement, ceux qui utilisent simplement opa, comme en allemand, s'évitent bien de débats de prononciation.
Cora, tu as vu l'heure? La journée est presque terminée. Comment voulons-nous passer la soirée?
Bonne question. Je pense que Pauline peut nous donner les propositions.
Au cours de notre excursion, les journées n'étaient bien sûr pas encore terminées après le coucher de soleil. En fait, Strasbourg offre beaucoup de programmes en soirée. Un élément incontournable de la culture alsacienne est sans aucun doute la bière. À cause de son histoire et sa proximité avec l'Allemagne, l'Alsace possède une forte tradition brassicole que l'on retrouve notamment dans les marques célèbres comme Kronenbourg, Meteor et Perle. Kronenbourg, fondée à Strasbourg, est probablement la marque alsacienne la plus connue. Ses bières blondes sont, typiquement pour cette sorte, légères, fraîches et pas vraiment amères, ce qui les rend très populaires dans les bars et les restaurants. La variété 1664 blanc, par exemple, nommée par la date de fondation de la brasserie, est très connue et se distingue par des notes fruitées et citronnées qui apportent une touche plus moderne et rafraîchissante. Meteor, la plus ancienne brasserie en France qui vient du Bas-Rhin, représente particulièrement la tradition alsacienne. Ces bières offrent souvent un goût équilibré et authentique. On y trouve des pils légères et florales, mais aussi des bières plus maltées et plus fortes. À côté des bières traditionnelles, la brasserie offre aussi des bières temporaires, qui sont par exemple accompagnées de fleurs, de copeaux, de fruits et d'épices comme même le poivre. La marque Perle combine aussi tradition et innovation. Cette brasserie propose des bières classiques, mais aussi des créations plus originales et artisanales. Certaines utilisent des ingrédients régionaux ou des méthodes modernes inspirées du mouvement craft beer. Quelques saveurs sont également modernes, avec des arômes des herbes, des épices ou de jus de raisin. À propos, dans la brasserie Perle travaillait la première femme ingénieure brasseuse, Frédérique Riquet, qui a obtenu son diplôme en 1928 de l'école de Nancy. Mais à Strasbourg, les soirées ne sont pas seulement dans les bars. Nous avons pu par exemple profiter du printemps du cinéma qui existe déjà depuis 2000 et vise à démocratiser l'art cinématographique et à le rendre plus accessible. Concrètement, il s'agit de 3 jours pendant lesquels les séances coûtent moins cher et la sélection des films est très diverse, donc tout le monde peut y trouver un film à son goût. Lundi soir, quelques-unes et quelques-uns de notre groupe ont décidé de regarder le film « Belle Amie ». Mais non, il ne s'agit pas de l'œuvre de Maupassant, mais d'une production franco-chinoise en noir et blanc qui traite l'homosexualité en Chine. L'histoire commence dans un restaurant. Plus précisément, il s'agit d'un côté d'un homme qui découvre l'amour et son homosexualité, et de l'autre côté d'un couple de lesbiennes qui essaie de trouver un homme gay pour se marier et avoir un enfant. Mais derrière ces histoires individuelles, il s'agit beaucoup des questions d'identité, de solitude et du rôle de la politique. Pour moi, c'est une nouvelle expérience. Le noir et blanc crée une atmosphère où le temps semble d'être arrêté. En plus, le film est très silencieux. Il y a peu de dialogue, ce qui le rend étonnamment très intime, mais en même temps très oppressant à mon avis. C'était aussi le premier film d'art et d'essai que j'ai vu, et c'est probablement pour cela que la présentation était si inhabituelle. Je vous recommande tout de même de regarder ce film parce que c'est tout simplement une expérience très différente comparée aux films populaires. Surtout, la fin, je suppose, va vraiment vous surprendre, mais je n'en dirai pas plus. Mon grand moment personnel était le concert d'Asfar Shamsi jeudi soir. Asfar Shamsi est une musicienne de 28 ans. Elle a grandi à Strasbourg et a commencé à la maison à s'essayer à la musique. Et d'abord, elle a joué de la guitare quand elle était enfant, mais ce n'est qu'à l'adolescence qu'elle s'est mise à la musique à travers le rap. Dans une interview pour Radio Nova, Asfar Shamsi raconte qu'elle a toujours aimé la musique, l'écriture et la poésie, mais le vrai déclenchement était le rap qui lui a donné une porte d'entrée. Sa musique se compose effectivement de rap, mais aussi de mélanges de pop ou d'éléments électroniques. À mon avis, ce sont ces genres mixtes qui rendent sa musique si intéressante et accessible pour un grand public des goûts différents. Je n'étais pas à un concert pendant une dizaine d'années et j'avais hâte de voir ce qui m'attendait ce soir-là. Et dans la salle de concert, l'ambiance était très contagieuse. Quand elle est venue sur scène, on avait vraiment l'impression qu'Asfar Shamsi avait simplement envie de partager sa musique sans en faire tout un plat. Et on a eu l'impression que le public faisait une grande partie intégrative pour la chanteuse. Et c'est justement cela qui a rendu l'atmosphère dans la salle très détendue et légère. Pour vous donner une petite impression de sa musique, j'ai choisi une de ses chansons les plus connues. Vous écoutez Asfar Shamsi avec sa chanson La Crise.
Depuis que je suis née, c'est la crise, je vois les gens qui s'habillent.
Coucou, est-ce que vous avez aussi si chaud? Moi en tout cas, j'ai chaud et j'ai vraiment envie d'une boisson rafraîchissante qui correspond parfaitement au printemps. Que diriez-vous d'une limonade aux fruits de la passion et au basilic? Pour cela, prenez un joli verre et remplissez-le de quelques glaçons. Ajoutez de l'eau pétillante, du jus de fruits de la passion, un petit trait de sirop, de grenadine et beaucoup de basilic. Ensuite, mélangez brièvement le tout et décorez avec une moitié de fruits de la passion. C'est prêt. Laissez-vous adoucir le printemps avec cette boisson. Et avec cette boisson, vous devez bien sûr vous installer dehors, vous laisser envelopper par les rayons de soleil et sentir les odeurs de différentes fleurs. Si vous avez un jardin, c'est le moment idéal pour faire un peu de jardinage. Prenez une pelle et des jolies gants de jardinage et éliminez cette mauvaise herbe avant qu'il ne soit trop tard. Veillez aussi à ce que vos plantes ne dépérissent pas et à ce que vos arbustes soient bien taillés. D'ailleurs, le mois de mai est parfait pour introduire des nouvelles choses dans le jardin. Vous pouvez semer des nouvelles fleurs, planter des herbes dans votre carré surélevé ou encore mettre en terre des bulbes. Je vous recommande d'acheter des bulbes de lys de différentes couleurs et de les planter dispersés ou en ligne dans votre jardin. Non seulement ils sont magnifiques, mais ils sont aussi très faciles à entretenir. Une fois les bulbes plantés à environ 20 cm sous terre, ils commencent déjà à pousser et fleurit au bout de 2 à 3 mois maximum. Pas d'inquiétude pour l'hiver, l'année suivante votre beau lys refleurira à la même période. La seule chose à faire est de veiller à ce que le sol ne devienne pas trop sec et de le planter de préférence à mi-ombre. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre magnifique fleurisson coloré. Et si vous n'avez pas de jardin, ce n'est pas grave. Visitez simplement le jardin botanique d'Iéna ou allez dans la nature pour découvrir à quel point le printemps peut être beau. Un autre conseil est la vallée des orchidées. Je parle de la vallée de l'Oitra, située au sud d'Iéna. Vous pourrez y admirer, surtout en mai et juin, les plus belles espèces d'orchidées. Mais attention, il est strictement interdit de cueillir ces espèces particulières.
Merci Laurentia pour la minute rafraîchissante. La limonade a l'air délicieuse. Maintenant, passons au calendrier culturel. Quelles sont les activités de loisirs intéressantes proposées actuellement à Iéna? Quelque chose qui nous relie à la France et à la langue française. En effet, un grand événement s'approche à grands pas. Il s'agit de la soirée française annuelle organisée par les étudiantes en langue et littérature romane du cours B2. La date de l'événement est le 20 mai à 19h. Cette année, il vous emmène à une soirée guinguette. Les guinguettes sont des petits établissements des quartiers où les gens se retrouvent pour prendre un verre, écouter de la musique et danser, surtout pendant les mois d'été. Les étudiantes ont préparé un buffet des cuisses et des jeux. Laissez-vous surprendre par une soirée variée et divertissante. Si tu souhaites rafraîchir ou améliorer ton français ou simplement discuter agréablement avec des personnes partageant les mêmes intérêts, alors les Stammtisch français est exactement ce qu'il te faut. Il a lieu tous les mercredis à partir des 19h au Musikkneipe Alster. De plus, il vaut également la peine de jeter un œil au site internet du DFG Jena, où de nouveaux événements en rapport avec la France sont régulièrement répertoriés. La semaine dernière, par exemple, a eu lieu la fête annuelle de la pétanque. Ah oui, la pétanque, on pourrait réjouir à ça cet été au Paradise Park. Avez-vous bien suivi l'émission? Car nous allons maintenant dévoiler la réponse à notre devinette. Le premier tramway reliant Kiel à Strasbourg n'a en effet circulé qu'en 2017. Le premier train à vapeur remonte toutefois à 1898, mais il a ensuite été mis hors service après la Première Guerre mondiale. Maintenant, revenons à Cora et Rebecca.
Merci de nous avoir accompagnés pour notre promenade à Strasbourg.
Au revoir et à la prochaine émission le 8 juin. On parlera de la fête et de la musique, on fera un bilan de la soirée française et beaucoup d'autres choses seront au programme. Au revoir.